France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La colère monte en Iran contre le gouvernement. Les étudiants ont rejoint le mouvement lancé par les commerçants qui dénoncent l'inflation galopante et la chute de la monnaie iranienne. Témoignage à Téhéran dans un instant. Les alliés de l'Ukraine émettent des doutes sur la supposée attaque ukrainienne contre la résidence d'été de Vladimir Poutine. Aucune source indépendante ne confirme l'existence de ce raid de drones. Le chinois BYD détrône Tesla, la première place mondiale des constructeurs de véhicules électriques. BYD qui a réussi à s'implanter en Europe malgré les restrictions imposées par l'Union européenne. En France, le chantier de l'autoroute A69 ne sera pas arrêté. La Cour administrative d'appel de Toulouse a validé l'autorisation environnementale du projet. C'est un mouvement encore limité, sans commune mesure, avec les manifestations monstres qui avaient suivi la mort de Mahsa Amini en 2022. Mais l'Iran connaît ces jours-ci une importante mobilisation sociale. Pour la troisième journée consécutive, des commerçants du bazar de Téhéran ont fermé boutique et les étudiants de la capitale ont décidé de rejoindre la contestation. Des manifestations sont aussi signalées en province. À l'origine de ce mouvement, la dégradation de la situation économique qui pèse sur la population iranienne. Siavosh Ghazi nous appelle de Téhéran.
La colère gronde depuis plusieurs mois déjà. De nombreux experts prévoyaient une telle explosion alors que l'inflation dépasse largement les 50% cette année et sera encore plus forte l'année prochaine. La chute de la monnaie iranienne qui s'est accélérée ces dernières semaines a aggravé encore la situation. Amir est un retraité de 80 ans, ancien ingénieur. Il a travaillé pendant plus de 35 ans et a pris sa retraite il y a 20 ans. Il se dit à bout de souffle.
Dans la situation actuelle, mon salaire est l'équivalent de $150. Heureusement, je suis propriétaire et mes enfants sont partis. Nous vivons à deux avec ma femme. Nous sommes au bout du rouleau. À chaque instant, non pas chaque jour ou chaque année, notre vie se rétrécit. Je pleure pour ces jeunes. Ils ont un avenir très très noir. Sans aucun espoir ou perspective, nous sommes dans une impasse très très dure.
La situation est encore plus difficile pour les jeunes qui n'ont pas de perspective. Bahram est un petit commerçant ambulant du petit bazar de Téhéran qui vend des légumes.
Ces dernières années, la situation est devenue très difficile. Le pouvoir d'achat des gens est en baisse à cause des sanctions et de la situation économique. Problème pour se marier, avoir un logement, un travail, une voiture, tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie normale.
Les sanctions américaines et européennes depuis plusieurs années, mais aussi la corruption, ont fortement dégradé la situation économique, alors qu'on ne voit aucune perspective d'amélioration.
Siavosh Ghazi, correspondant de France Culture à Téhéran. Pour l'instant, le pouvoir iranien se garde bien de réprimer ce mouvement. Le président Massoud Pezeshkian a même demandé à son ministre de l'Intérieur d'écouter, je cite, « les revendications légitimes des manifestants ». La Russie a-t-elle trouvé le prétexte qu'elle cherchait pour ruiner la négociation visant à mettre fin à la guerre en Ukraine? Depuis hier, le Kremlin accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence d'été de Vladimir Poutine à Valdaï, dans la région de Novgorod. Tous les drones ukrainiens auraient été abattus, mais Moscou n'a pas tardé à annoncer un durcissement de sa position dans les pourparlers en cours. Seulement voilà, aucune source indépendante ne confirme la réalité de cette attaque qui a été rapidement démentie par l'Ukraine. On fait le point avec Éric Biegala de la rédaction internationale de Radio France.
Si certains chefs d'État ou de gouvernement proches de Vladimir Poutine, tels le Premier ministre indien Narendra Modi, ont été prompts à reprendre telles quelles les accusations formulées par le Kremlin hier, comme quoi la résidence de Valdaï avait été ciblée par une attaque massive de drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, d'autres émettent quelques doutes. De sources élyséennes, par exemple, on fait valoir qu'il n'existe aucune preuve solide venant corroborer les graves accusations des autorités russes, y compris après recoupement des informations avec nos partenaires, ajoute-t-on dans l'entourage du président français. Il faut dire qu'aucune image, aucun débris de drone ukrainien, aucune alerte aérienne n'ont été recensés jusqu'à présent en Russie dans le secteur de Valdaï. Tout à fait inhabituel, surtout pour une attaque qui aurait impliqué près d'une centaine d'engins. Les voisins de la résidence de Valdaï, interrogés par le site d'opposition russe Sota News, n'ont fait état d'aucune sirène d'alerte, aucune activation des défenses antiaériennes dans la nuit du 28 au 29 décembre. Même le président américain Donald Trump n'excluait pas hier qu'il puisse s'agir d'un canular. Interrogé lors d'une conférence de presse pour savoir si les services de renseignements américains avaient pu corroborer cette attaque, Donald Trump s'est référé à ce que lui en avait dit Vladimir Poutine. tout en concédant qu'il était possible que cette attaque n'ait jamais eu lieu.
Et selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la France accueillera le 6 janvier prochain une réunion des pays alliés de l'Ukraine. Il s'agira de préparer une autre réunion, cette fois entre dirigeants européens et américains. Dimanche en Floride, Donald Trump avait proposé à Volodymyr Zelensky des garanties de sécurité américaine pour 15 ans prolongeables en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Mais pour le moment, les discussions butent sur les concessions territoriales que l'Ukraine serait prête à faire. Les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans la stratégie de pression contre le Venezuela de Nicolas Maduro. Pour la première fois, les Américains ont mené une frappe terrestre sur le territoire vénézuélien. Ils ont bombardé une zone portuaire, en l'occurrence un quai, et des entrepôts utilisés par des trafiquants de drogue. Donald Trump l'a confirmé hier sans rentrer dans les détails, mais selon plusieurs médias américains, c'est la CIA qui a conduit cette opération destinée à ébranler un peu plus le régime de Nicolas Maduro. On retrouve à Washington Franck Madvon.
Comme souvent lorsqu'il s'agit du Venezuela, les informations officielles sont parcellaires. Aucune preuve n'est fournie par les autorités américaines. Mais CNN et le New York Times ont obtenu des détails sur l'opération. Il s'agit d'une frappe de drone conduite par la CIA. Un quai a été visé, on ne sait pas précisément dans quelle zone sur la côte. L'endroit ciblé serait utilisé par le gang vénézuélien Tren de Aragua, une organisation terroriste selon Washington, afin de stocker de la drogue destinée à être transportée à bord de bateaux. Depuis cet été, une trentaine de bateaux appartenant à des narcotrafiquants présumés ont été détruits par les Américains. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées. La frappe menée par la CIA n'a pas fait de victimes. Elle aurait eu lieu la semaine dernière, sans doute le 24 décembre, si l'on en croit les premières déclarations de Donald Trump à ce sujet. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans l'escalade entre les États-Unis et le Venezuela. Washington a aussi saisi deux pétroliers. Les opérations américaines ne visent pas uniquement le trafic de drogue. Et il faut souligner deux éléments qui tendent à contredire le récit de l'administration Trump. D'abord, le Venezuela est très peu impliqué dans le trafic de fentanyl, la drogue de loin la plus meurtrière aux États-Unis, et il exporte surtout de la cocaïne, bien souvent destinée au marché européen. Le Venezuela n'a pas commenté précisément cette frappe, mais son ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a dénoncé des mois de folie impériale américaine.
Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. C'est un tournant dans l'industrie automobile mondiale. Le constructeur chinois BYD est devenu cette année leader sur le marché du véhicule tout électrique. Le groupe de Shenzhen qui détrône l'américain Tesla qui occupait jusqu'ici la première place. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
BYD a vendu plus de 2 millions de véhicules électriques en 2025. Il est désormais très présent en Europe et cela, Hakim, malgré les restrictions imposées par l'Union européenne.
Oui, un succès qui s'explique en grande partie par le nombre important de modèles proposés qui vont de l'entrée de gamme autour des 20 000 euros au gros SUV en passant par les voitures hybrides, mais aussi par un fort réseau de distribution dans le monde, contrairement à son rival américain Tesla qui privilégie les ventes en ligne et qui a une offre très limitée avec des tarifs compris entre 40 000 et 100 000 euros. Mais si BYD est devenu numéro un mondial de la voiture électrique grâce à son savoir-faire, il bénéficie aussi d'un soutien très important de l'État chinois, ce qui lui permet de casser les prix et de compenser en partie les taxes mises en place par la Commission européenne, comme l'explique Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux.
Ils ont travaillé pour que leur véhicule soit conçu pour être moins cher. Et puis, il y a quand même, évidemment, ce que tout le monde a pointé, c'est-à-dire des surcapacités très importantes qui font qu'il y a une quasi-obligation de brader ces véhicules pour en écouler les volumes produits en excédent. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'avantages qui sont liés au subventionnement massif des véhicules électriques et de toute la filière batterie par les autorités chinoises, qui biaisent un petit peu la caractérisation, ou en tout cas l'évaluation que l'on peut faire de la compétitivité intrinsèque, parce que on a des équations de coûts qui sont pour le moins obscures quand on essaie de les appréhender comme analyste extérieur à BYD.
En attendant, pour ne pas payer de taxes, le constructeur chinois va ouvrir une usine en Hongrie très prochainement, mais pas sûr que cela suffise, car le 28 janvier prochain, la Commission européenne devrait imposer à tous les constructeurs, quels qu'ils soient, 75% de leurs pièces devront être fabriquées en Europe, sur le vieux continent, ce qui ferait perdre au moins 30% de compétitivité aux constructeurs chinois qui risqueraient de devoir du coup augmenter leurs prix.
Merci à Kim Kasmi pour ses explications. Privé pour l'instant de budget pour 2026, la France s'empruntera l'an prochain un montant record de 310 milliards d'euros sur les marchés. Le chiffre a priori inquiétant correspond en fait aux prévisions de l'agence France Trésor, l'organisme chargé de gérer la dette de l'État. Les emprunts débuteront en janvier en vertu de la loi spéciale promulguée samedi par Emmanuel Macron, mais la somme annuelle pourra être ajustée à la prochaine loi de finances. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Stanislas.
Ces 310 milliards empruntés représentent environ 10% du PIB français. Camille, un pourcentage relativement stable par rapport à 2025.
Oui, et malgré le grand flou budgétaire, malgré la dégradation de la note souveraine française par deux agences de notation l'automne dernier, à l'agence France Trésor, on affiche une grande sérénité. La demande des investisseurs pour acheter de la dette française n'a pas fléchi cette année, nous assure-t-on, et rien n'indique que ça devrait changer dans l'année qui vient. Le bilan 2025 affiche même une baisse des taux auxquels la France emprunte, portée par la politique de baisse des taux de la BCE. Le taux augmente certes à moyen et long terme, mais de 2,9 à 3,14%, donc rien d'alarmant par rapport aux autres pays de la zone euro. Même le fait de démarrer l'année avec une loi spéciale ne devrait pas rebuter les créanciers. L'an dernier, en situation identique, cela n'avait eu aucun effet sur les émissions de titres de dette française. En 2026, donc la France va emprunter toujours plus, hein, mais 310 milliards, ça reste très loin des 512 milliards annoncés par l'Allemagne qui a décidé de rompre avec sa traditionnelle rigueur budgétaire. Et les banques et fonds de pension du monde entier semblent toujours avides de financer ces dettes-là. Alors bien sûr, tout ça a un coût en intérêt qu'il va falloir rembourser, mais la France va continuer cette année à émettre de nouveaux titres de dette, notamment des obligations vertes souveraines, et c'est une première hein, depuis leur création en 2017, ces green bonds pourront désormais financer à crédit les investissements dans le nucléaire. La France va bien en avoir besoin pour les chantiers des 6 futurs réacteurs EPR2 dont le coût global a été récemment réévalué à la hausse, 83 milliards d'euros tout de même.
Camille Magnard, service économique de France Culture. En Italie, le Parlement a adopté aujourd'hui le budget 2026 du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, budget qui prévoit 9 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. En revanche, ces impôts augmenteront pour les banques et les assurances. Par ailleurs, la première ministre italienne veut reculer l'âge de la retraite à 67 ans et 3 mois à partir de 2028 contre 67 ans aujourd'hui en Italie. La Cour administrative d'appel de Toulouse a donc tranché. Elle donne son feu vert à la poursuite du chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Plus précisément, la Cour a rétabli l'autorisation environnementale du projet qui avait été annulée en première instance. Les magistrats toulousains ont notamment estimé que cette liaison autoroutière répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Malgré ce revers, les opposants à la 69 veulent poursuivre le combat contre l'autoroute. En revanche, les partisans du projet saluent cette décision.
Oui, et le premier à l'avoir fait ce matin dans un communiqué est le ministre des Transports. Décision majeure pour Philippe Tabarot qui insiste sur le soutien des habitants, des acteurs économiques et des élus du territoire, à l'image du député Renaissance du Tarn, Jean Terlier.
C'est un long périple juridique, presque 4 années de procédure, de 15 décisions qui ont été rendues, parfois contradictoires, qui rendent aujourd'hui cette décision encore plus importante pour celles et ceux qui militent pour ce chantier de d'autoroute A69 qui va venir désenclaver un bassin d'emploi. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un soulagement pour ceux qui considèrent qu'on a besoin d'avoir cette infrastructure autoroutière pour redonner de l'attractivité au sud du Tarn et à la ville de Castres et à son agglomération Castres-Mazamet.
Les opposants, eux, annoncent un pourvoi devant le Conseil d'État qui n'est, cela dit, pas suspensif et ne permettra donc pas d'interrompre un chantier déjà très avancé. Mais Gilles Garic du collectif La Voix est libre estime que la Cour d'appel n'a pas apporté d'éléments de droit suffisants face à un projet qui n'a plus de sens selon lui.
On pouvait faire des autoroutes dans les années 70-80, mais on n'est plus dans les années 70-80 du XXe siècle, on est au XXIe siècle. Donc le fait que la Cour d'appel annule ce premier jugement montre bien qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux que l'on attend de nos services de l'État, de notre justice. Là, ce qu'ils ont fait ce matin, c'est vraiment enterrer, au contraire, le droit de l'environnement. Ce sont des véritables fossoyeurs des droits de l'environnement. Donc nous, on se bat aussi là-dessus pour faire avancer et élargir la jurisprudence qui est derrière. C'est-à-dire étayer, renforcer le fait que l'environnement puisse se défendre, puisqu'il ne peut pas se défendre tout seul.
La bataille judiciaire se poursuit également sur le terrain pénal contre des emprises non autorisées du chantier. Le procureur de Toulouse a requis la suspension des travaux sur les zones concernées. Décision attendue le 12 janvier prochain.
Florence Turme, merci. Sur un autre sujet, les associations environnementales dénoncent ce soir un inquiétant recul de la part du gouvernement. L'interdiction des gobelets jetables contenant du plastique n'entrera pas en vigueur ce jeudi 1er janvier comme prévu. La mesure est repoussée à 2030, selon un arrêté publié ce matin au journal officiel. Le ministère de la Transition écologique invoque la faisabilité technique d'une telle interdiction pour justifier ce report. Argument rejeté par l'association Zero Waste France, qui défend au contraire l'existence de solutions alternatives pour se passer du plastique. On écoute sa porte-parole, Manon Richert.
En fait, ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve face à des reculs écologiques qui sont actés comme ça par le gouvernement. C'était déjà le cas en début d'année sur l'interdiction du polystyrène sous prétexte que les technologies pour remplacer ces emballages n'étaient pas encore prêtes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les solutions, elles existent déjà. Donc d'une part, il y a la consigne pour réemploi qui ne demande qu'à être généralisée. Il y a 90% des Français qui sont pour la consigne pour réemploi. Donc maintenant, il faut y aller. Et puis, il y a la recharge, donc tout simplement le fait d'amener son propre contenant chez les commerçants. Faciliter ça pour les gens, et ben ça pourrait déjà être une alternative beaucoup plus viable que de développer des plastiques soi-disant compostables, sachant qu'on n'a pas de filière. Chaque année, on estime à peu près 4 milliards le nombre de gobelets jetables qui vont finir du coup en incinération, donc brûlés ou en décharge, parce que ces gobelets-là, comme ils sont faits de différents matériaux, ils vont être difficiles à recycler. 2030, c'est loin, et donc ça fera 16 milliards de gobelets plastiques jetables qui seront enfouis ou incinérés vraiment pour rien, donc avec un énorme gaspillage de ressources naturelles.
2030, nouvelle date donc pour l'interdiction des gobelets jetables en plastique. Manon Richert, porte-parole de l'association Zero Waste France, répondait à Véronique Robérotte. C'est en quelque sorte la réponse bourguignonne à Google Street View. Le département de la Côte d'Or vient de lancer son propre programme de numérisation de son réseau routier, Côte d'Or Streets, avec au total près de 9000 km de routes départementales répertoriées sur une carte numérique, de quoi offrir aux autorités locales une bien meilleure vision de l'état du réseau. Cette première française est aussi une question de souveraineté numérique pour la Côte d'Or, Hugo de Waha.
Pendant plusieurs mois, une entreprise française a sillonné les routes départementales de la Côte d'Or avec une voiture équipée d'une caméra. Un travail déjà réalisé par Google Street View, mais François Sauvadet, le président du département, refuse de dépendre du géant américain.
La question de la souveraineté de nos données, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, nous allons pouvoir maîtriser absolument toutes les données qui sont en notre possession. Nous le possédons, nous sommes souverains.
Et en plus d'appartenir au département, ces images sont d'une excellente qualité.
Nous avons un niveau de précision qui nous permet de voir la moindre fissure sur la route. Nous sommes en capacité de voir le moindre boulon sur la rambarde de sécurité.
Une précision qui facilitera l'entretien des routes, mais ce n'est pas tout.
Vous voulez organiser dans une ville votre plan de circulation, vous pouvez modéliser les effets de ce plan de circulation sur la fréquentation des populations, sur la fréquentation des habitants.
Une telle technologie est une première en France, mais en tant que président de l'Assemblée des départements du pays, François Sauvadet compte bien faire des émules.
Je souhaite que vraiment toutes les collectivités de France se préoccupent de la maîtrise de leurs données et de tout ce que la maîtrise de la donnée peut apporter dans la précision de la gestion.
La numérisation des routes de la Côte d'Or a coûté 50 000 euros.
L'Élysée a proposé sans succès à la famille de Brigitte Bardot d'organiser un hommage pour l'icône du cinéma français décédée dimanche. C'est ce qu'indique aujourd'hui un proche d'Emmanuel Macron à l'AFP, à l'agence France Presse. Il y a eu un échange avec la famille, avec proposition qu'un hommage ait lieu, sans que la famille Bardot ne donne suite, a déclaré ce proche, en rappelant qu'une telle démarche correspond à un usage républicain et que les hommages sont systématiquement décidés d'un commun accord avec les proches du défunt. Éric Ciotti, président de l'UDR, allié au Rassemblement National, avait demandé hier à Emmanuel Macron d'organiser un hommage national à Brigitte Bardot, à l'image de celui qui avait été rendu en 2017 au chanteur Johnny Hallyday. Un mot du temps demain, il restera sec et froid dans l'ensemble en raison du maintien des conditions anticycloniques. Les brouillards et les nuages bas seront fréquents le matin, avec quelques flocons possibles sur la vallée du Rhône et le Lyonnais. Les gelées seront fortes demain matin, entre moins 1 et moins 9 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 0 et 6 degrés jusqu'à 12 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec l'Agdar Olivier Benmalek.